France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Un 13-14 sur le terrain dans la France du discount et du déstockage.
J'allais pas dans les magasins comme Lidl, Noz avant, j'allais que à Leclerc et maintenant je vais moins à Leclerc et plus dans les autres magasins. Je fais les plus grosses courses à Leclerc, mais tout ce que je sais que je peux trouver chez Action, je préfère aller chez Action vu que c'est moins cher.
Vous connaissez ces enseignes. Ces dernières années, avec la crise de l'inflation, elles ont poussé comme des champignons dans nos villes et la concurrence est féroce.
Vous avez la Farfouille, vous avez Stokomanie, vous avez l'Incroyable, vous avez Action, vous avez Noz, vous avez BM qui s'implante. Il y a quand même 6 magasins hard discount sur un rayon de 2 km.
Jusqu'où ira ce phénomène? Faut-il le réguler? Va-t-il résister aux plateformes chinoises comme Shein? Pour le savoir, nous nous sommes installés à Laval, en Mayenne. C'est le berceau de la marque Noz. Et pendant une heure, nous allons vous donner la parole, sans oublier toute l'actualité de ce mardi, avec Florence Paracuelos. Bonjour Florence.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À commencer par le discours de politique générale du Premier ministre cet après-midi.
Oui, l'Assemblée cet après-midi, et un discours très attendu pour estimer la durée de vie du nouveau gouvernement. On scrutera les mots de Sébastien Lecornu sur la réforme des retraites et sur le budget présenté ce matin en Conseil des ministres. On va voir ça dans le détail. On ira prendre la température à l'Assemblée où le patron des députés LR vient de faire passer cette consigne. Pas de vote pour une dissolution, en sachant que c'est la position des socialistes qui est la plus attendue, car ils auront le pouvoir de faire chuter le gouvernement. Dans ce journal aussi, Gaza et les règlements de compte du Hamas extrêmement violents, et pour l'exemple, contre ses opposants et ceux qui l'accusent d'avoir collaboré avec Israël, la grippe. Attention, elle pourrait être méchante cette année. La campagne de vaccination commence aujourd'hui. Et puis la fête toute la nuit au Cap-Vert, l'équipe nationale, c'est pour la première fois qualifié pour une Coupe du Monde de football.
Et puis juste avant 14h, notre clin d'œil, Laval et ses bateaux lavoirs. C'est une spécialité, elle est en péril. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Saint-Berthevin, près de Laval, mais nous pourrions être partout en France, dans l'une de nos multiples zones commerciales. Nous nous sommes installés devant le magasin Noz, ses traditionnelles couleurs bleu et blanche. C'est l'un des 340 magasins de France, c'est l'un des plus grands aussi, 1500 mètres carrés. Et pour cause, c'est ici que tout a débuté pour cette enseigne, 1976. Alors Noz, c'est un déstockeur qui vend les stocks que les marques n'ont pu écouler, des clients qui derrière moi entrent et sortent à la mi-journée ici. Et il y a quelques minutes, nous avons croisé Ambre.
En vrai, c'est un magasin où on peut retrouver plein de choses différentes, que ce soit des livres, des jeux de société, des vêtements, de la nourriture, etc. Donc moi, je trouve ça intéressant de venir une ou deux fois par mois. Comme ça, je fais un petit peu un restock de plein de choses pour chez moi. Et en même temps, je me dis, on fait aussi vivre la chaîne qui est en faillite, en fait, quand on retrouve des vêtements de grandes marques, etc. Donc moi, je trouve ça bien aussi de les acheter à prix réduit et de quand même les faire vivre, que ce soit pas détruit en fait, pour rien. Je refais vivre les marques avec une autre enseigne, ça c'est sûr, mais au moins on continue en fait d'en acheter quoi. De la marque Camailleux et puis ma taille, c'est ça qui est dommage. Mais sinon oui, j'achète souvent des vêtements à prix réduit, mais il y a même du jacket jeans, etc. Donc je trouve ça cool et bien.
Ambre qui était venue avec l'une de ses collègues sur sa pause déjeuner et qui est repartie avec ses premiers cadeaux de Noël, nous a-t-elle dit, des jeux de société. Bonjour Jean-Philippe Labadeau.
Oui, bonjour.
Merci de nous recevoir ici, vous êtes le patron de ce magasin. On a entendu Ambre qui nous dit c'est bien parce qu'il y a des marques comme ça qui font faillite et on peut venir acheter ces produits à moindre coût. Si je vous dis que les déstockeurs, c'est une expression que j'ai pu lire, sont les charognards du commerce, est-ce que vous êtes d'accord?
Ah mais pas du tout, du tout. En fait, nos clients ne nous voient pas tels qu'eux. Après, le fait d'avoir des marques comme Casa, comme Jennifer, comme Esprit, qui étaient en liquidation judiciaire, fait que peut-être, voilà, cette image négative, mais en fait pas du tout, c'est que ces marques-là ne représentent que 10% dans mon magasin, que
c'est
10%.
C'est une partie du magasin, mais une toute petite partie.
C'est toute partie du magasin, ouais.
Les clients avec lesquels j'ai discuté ce matin souvent me disaient, mais je ne sais pas avec quel produit je vais ressortir. C'est un peu ça la logique?
La logique est celle-là, c'est-à-dire que les gens rentrent chez nous sans idées préconçues, sans achats prédéfinis, se perdent dans nos allées, en fait, sont toujours à la recherche d'une belle affaire, d'une bonne affaire, et c'est souvent le cas, très souvent le cas.
Est-ce que vous avez le sentiment de toucher désormais une nouvelle clientèle par rapport à il y a quelques années? liée notamment à la crise de l'inflation qu'a connue la France ?
Bah, il y a quelques années, aller chez un déstockeur, c'était un peu... on le faisait de façon un petit peu cachée.
Mal vu.
Voilà, c'était un peu mal vu. Et là, depuis quelques années, toutes les catégories socio-professionnelles viennent chez nous. On a vraiment tout le panel de public, des familles, des jeunes, moins jeunes. Et voilà, donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour tout le monde ici.
On va vous retrouver dans quelques minutes, Jean-Philippe Labado, dans la suite de ce 13-14. On expliquera aussi, vous nous avez ouvert les portes ce matin, comment vous procédez au rachat de stock. On fera plus ample connaissance avec les discounters qui ne sont pas les déstockeurs. Normal et Action sont des enseignes qui poussent aussi beaucoup ces derniers mois. Et puis nous verrons quel rôle jouent les commissions départementales d'aménagement commercial. Ce sont elles qui, dans les départements, décident si les magasins peuvent s'implanter ou pas. Tout cela, ce sera avec nos invités, nos reportages. Et après l'actualité de ce jour, on vous retrouve Florence Paracuelos, actualité évidemment politique.
Et cette fois, le nouveau gouvernement a eu le temps de passer à l'Élysée pour un premier conseil des ministres convoqué ce matin autour d'Emmanuel Macron. On y a présenté le budget qui sera transmis au Parlement, on va y revenir. Puis les ministres se sont dit à la semaine prochaine, peut-être, si tout va bien, car d'ici là, le gouvernement n'est pas sûr de survivre. Tout dépendra de ce que dira Sébastien Lecornu sur les retraites cet après-midi dans son discours de politique générale à l'Assemblée, d'où... Bonjour Jérôme Val.
Bonjour.
En direct de l'Élysée, d'où la dramatisation entretenue par le président ce matin.
Oui, dans cette journée si particulière qui a démarré par un échange entre le président et son chef de gouvernement avant un conseil des ministres qui vient de se terminer, conseil des ministres anormalement long. Il y a toujours une transmission de la copie du premier ministre au président, nous explique un conseiller de l'Élysée qui rappelle quand même qu'Emmanuel Macron a donné carte blanche à Sébastien Lecornu, sous-entendu. C'est lui qui s'engage devant l'Assemblée nationale, pas le président, conclut son entourage. C'est donc lui et lui seul qui a fait le choix des mots dans son discours. Celui de suspension de la réforme des retraites sera-t-il prononcé ? Aucun indice n'a filtré et pas sûr que dans les prochaines secondes, la nouvelle porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, n'en dise plus. Un ministre nous confiait quand même ce matin qu'il y avait deux écueils à éviter pour Sébastien Lecornu. Tout lâcher et se montrer psychorigide, car à l'Élysée, à Matignon ou partout dans les ministères, on a fait les comptes sur le papier. Compliqué de dire si la censure sera votée, reconnaît le conseiller d'une ministre. Mais selon lui, il ne manque que 25 voix pour que le gouvernement tombe. Un fil très ténu et une issue imprévisible dans le contexte actuel.
Jérôme Val en direct de l'Élysée. Merci avec Virginie Lorda. Alors avant de se rendre à l'Assemblée qui pourra lever ou baisser le pouce dans les jours qui viennent pour maintenir ou faire tomber le nouveau gouvernement, on va entrer dans le vif du budget avec vous, Claire Chaudière, pour des questions d'agenda constitutionnel. Bonjour Claire.
Bonjour
à
tous.
Le texte qui a été présenté ce matin au Conseil des ministres date de jeudi dernier, soit avant la formation du gouvernement Lecornu 2. On sait qu'il est fortement inspiré de la copie Bayrou, mais aussi qu'il est largement modifiable au Parlement.
Oui, au Parlement, où beaucoup de choses pourraient bouger, mais aussi modifiable par le Premier ministre lui-même. Cet après-midi, on est donc face à une copie, potentiellement, Florence, déjà en partie caduque. Alors, une fois qu'on a dit ça, à ce stade, ce qui est prévu, c'est 30 milliards d'euros d'efforts budgétaires en 2026, selon le chiffrage du Haut Conseil des Finances Publiques, et on retrouve des mesures qui ont crispé les oppositions ces derniers mois. Le gel des prestations sociales, la fameuse année blanche, gel des salaires de la fonction publique, des coupes importantes dans les dépenses de santé, doublement des franchises notamment. Plus de 3000 postes de fonctionnaires doivent disparaître l'an prochain, toujours selon cette première copie, au total 17 milliards de baisses de dépenses structurelles.
Et côté recettes, on y voit un peu plus clair ?
Et oui, ce chiffre, 14 milliards de nouvelles recettes fiscales ou baisses d'allègement attendues en 2026, 4 milliards de surtaxes sur les bénéfices des très grandes entreprises, contribution minimale des ménages aux très hauts revenus reconduite, nouvelle taxation du patrimoine dormant dans les holdings, refonte de cet abattement de 10% dont bénéficient de nombreux retraités, l'année blanche appliqué au barème de l'impôt sur le revenu va faire mécaniquement monter un petit peu cet impôt pour tous les ménages, même si un geste est prévu pour les couples juste au-dessus du SMIC. Et puis on découvre aussi des mesures fiscales qui vont toucher certains biocarburants. À noter aussi ce projet de taxe sur les petits colis qui arrivent de l'étranger.
Et j'ajoute sur le vapotage, apparemment la cigarette électronique. Merci Claire Chaudière. Un budget qui repose sur une hypothèse de croissance d'1%, jugée trop optimiste par le Haut Conseil des Finances Publiques. Il souligne que les économies budgétaires risquent de peser sur l'activité. Et puis donc, il y a la fameuse question des retraites fatidiques. On l'a dit, pour la survie du gouvernement, puisque les socialistes exigent la suspension immédiate et complète de la réforme de 2023, sous peine de censure, qui viendrait s'ajouter aux motions de la France insoumise et du Rassemblement national débattues dès jeudi. Tout va se jouer à quelques voix. Bonjour Lise Roseveille.
Bonjour.
Vous êtes à l'Assemblée où la situation est d'autant plus tangente que certains OPS, comme chez LR, seront tentés de ne pas suivre la consigne de leur parti.
Oui, ils scruteront chaque mot du Premier ministre. Pour le député socialiste de la Loire, Pierrick Courbon, une simple suspension, même intégrale, de la réforme des retraites ne suffirait pas. Il veut aussi de vrais gages sur le pouvoir d'achat et la fiscalité. Il est prêt à censurer, même contre l'avis de son groupe.
Je ne prends aucun plaisir à avoir des positions orthogonales par rapport à celles du groupe. Maintenant, il faut être aussi clair. Il y a certains qui cherchent à éviter une censure à tout prix, quoi qu'il en coûte. Je ne fais pas partie de cela.
Les socialistes qui s'apprêtent à se réunir en bureau national restent partagés entre l'envie de glaner une victoire sociale et la peur d'être accusés de pactiser avec la Macronie. Chez les Républicains, malgré un rappel à l'ordre du chef de file Laurent Wauquiez ce matin, certains s'interrogent. Accepter une suspension de la réforme des retraites, même au nom de la stabilité, la députée Anne-Laure Blin ne veut pas se prononcer avant le discours du Premier ministre.
La gauche a demandé un certain nombre de choses. Moi, comme femme de droite, je pose aujourd'hui ce que je veux et donc je prendrai la décision in fine. Mais aujourd'hui, tout est ouvert, c'est-à-dire que le sujet des retraites a été évoqué, comme d'autres sujets.
Évidemment, certains hésitent à censurer, souffle un député LR, avant de rappeler, la liberté de vote fait partie de nos statuts.
Lise Roseveille en direct de l'Assemblée avec Geoffrey Marianne. J'ajoute que les socialistes réuniront un bureau politique juste après la séquence du discours de politique générale à l'Assemblée. Et les réponses de chaque groupe, c'est à ce moment-là que les socialistes prendront sans doute leur décision. Lui est prix Nobel d'économie depuis hier. Philippe Aguillon a conseillé Emmanuel Macron et soutenu plusieurs de ses réformes avant de prendre ses distances l'an dernier. Et c'est une auditrice qui lui a posé la question ce matin sur France Inter dans le grand entretien, monsieur Aguillon. Faut-il suspendre la réforme des retraites? Voici sa réponse.
Plutôt que le mot suspension, je dirais interruption d'horloge. Moi, ce que je propose, c'est qu'on est à 62 ans et 9 mois, ouais. Voilà. On stoppe là, jusqu'en 27, et puis ça reprend normalement en 27, mais si quelqu'un veut changer la réforme des retraites, eh ben, en 27, qu'un nouveau gouvernement propose une nouvelle réforme. Ça va coûter de l'argent, mais si moi j'évite une crise grave politique, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'économie politique, et l'instabilité, le coût de l'instabilité, notamment en termes de flambée des taux d'intérêt, serait beaucoup plus grand que ce que je dépense en faisant ça. Je n'hésite pas une seconde. Et j'espère que les socialistes vont accepter, vont réaliser que c'est une grande concession, et que les socialistes vont dire ça, avec ça, on peut fonctionner.
Voilà, suspendre pour éviter la crise politique et financière, on en saura plus cet après-midi en écoutant Sébastien Lecornu à l'Assemblée et en attendant la réponse des socialistes, dont une vingtaine de voix suffirait à faire tomber le gouvernement si elle s'ajoute à tout le reste de la gauche et à l'extrême droite. Quel sera l'après-Gaza quand l'enclave n'est plus qu'un champ de ruines? 80% des bâtiments ont été détruits. Le Hamas déposera-t-il les armes comme prévu par l'accord américain? L'hypothèse paraît lointaine, d'autant que l'organisation islamiste a repris le contrôle de 50% de l'enclave que l'armée israélienne a laissée. Le Hamas qui fait de nouveau régner sa loi jusqu'à régler ses comptes au grand jour. Détail signé Thibault Lefebvre à Jérusalem.
Les mots d'Anwar Rajab, c'est le porte-parole des forces de sécurité de l'autorité palestinienne, laisse peu de place au doute. Il affirme en effet sur la chaîne saoudienne Al Arabiya que le Hamas est en train de créer les conditions d'une guerre civile. Depuis le cessez-le-feu, les affrontements et les règlements de compte se multiplient. Sur cette vidéo, quatre hommes à genoux, les yeux bandés, sont exécutés en public à l'arme automatique par des miliciens du Hamas. L'organisation islamiste passe des messages aux clans bédouins du Sud, comme les forces populaires de Yasser Abu Shebab, qui a ouvertement reçu des armes des Israéliens, mais aussi à destination de grandes familles très influentes à Gaza et pour certaines proches depuis des années d'autres factions. Rami Al-Maghari est un de nos journalistes dans l'enclave.
Ça Le Hamas se bat avec une famille importante de la ville de Gaza, les Dormouche. 20 personnes sont mortes des deux côtés. Le Hamas est en train de déployer ses hommes dans la bande de Gaza.
La nouveauté, c'est que désormais, ses dirigeants ont le soutien des États-Unis dans l'avion et qu'ils l'amenaient hier en Israël. Donald Trump a en effet affirmé que l'organisation islamiste avait reçu l'accord des Américains pour maintenir l'ordre pendant une période déterminée.
Thibault Lefebvre, correspondant de France Inter à Jérusalem ce matin, l'ONU et la Croix-Rouge demandent l'ouverture de tous les points de passage de la bande de Gaza pour permettre d'acheminer davantage d'aide humanitaire. En Ukraine, un convoi d'aide de l'ONU a été visé par une frappe russe ce matin dans la région de Kherson, délibérément ciblée selon le gouverneur ukrainien de la région, alors que les véhicules étaient siglés ONU. Miraculeusement, il n'y a pas eu de blessés. Une minute de silence en France à 10h dans tous les établissements scolaires. Minute de silence à la mémoire de Samuel Paty et Dominique Bernard, deux professeurs assassinés au mois d'octobre en 2020 et 2023 par des jeunes radicalisés. Sonia Princet, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi ce moment au collège André Malraux dans le 17e arrondissement parisien avec des élèves de 5e.
Oui, les collégiens étaient en cours d'EPS un peu avant 10h, en chaussettes sur des tapis bleus dans le gymnase pour une séance de lutte au sol. Quand la principale du collège, Céline Izard, est arrivée, les élèves se sont calmés.
Chers élèves, je vous remercie de bien vouloir vous lever pour un temps d'hommage aux victimes d'attentats contre l'école.
Ce discours décrit brièvement qui étaient Samuel Paty et Dominique Bernard et rappelle qu'à travers eux, la liberté d'expression et la laïcité ont été attaquées, des mots qui ont touché Amar, Angelina et Martha.
Parce que ça se fait pas et qu'il a rien fait, c'est un prof gentil comme les autres.
Je trouve ça horrible en sachant que c'était des enseignants qui ont juste défendu les valeurs françaises.
Moi, je trouvais que c'était très émouvant à repenser à tout ça en une seule minute. Ça nous rappelle à chaque fois qu'on a tellement de chance et pas avoir la malchance de croiser quelqu'un qui va venir tuer nos professeurs.
Ces élèves avaient 6 et 9 ans au moment des faits. Tous ne sont pas au point sur les circonstances, d'où l'importance d'en reparler en classe, selon Bastien Etchevarria, le professeur de PS.
La minute de silence a été respectée, mais je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Et en cours d'histoire géo, il y aura sûrement des questions. Parce que la minute de silence, c'est important pour se souvenir. C'est important pour rappeler que l'école lutte contre l'obscurantisme. Mais voilà, les collègues d'histoire géo, je sais que dans cet établissement, en tout cas, ils sont très au point et à chaque fois dans les classes, ils en parlent.
Des séances d'enseignement moral et civique sont prévues dans les prochaines semaines.
Sonia Princet, merci. Elle avait porté plainte pour violence et harcèlement moral. Une adolescente de 17 ans s'est suicidée quelques heures plus tard à Mulhouse. Dans la nuit de dimanche à lundi, au commissariat, elle avait raconté avoir été victime d'une rixe dans l'après-midi et dénoncé des appels téléphoniques malveillants. Une enquête est ouverte. Une petite piqûre pour éviter la grippe, surtout ses formes graves. La campagne de vaccination automne-hiver commence aujourd'hui. En pharmacie, 5 vaccins disponibles et une forte recommandation des autorités sanitaires quand on a plus de 65 ans, qu'on est enceinte ou immunodéprimée, car on ne sait pas encore si la grippe cette année sera virulente comme l'an dernier. 17 000 morts, ce qu'on sait en revanche, Victor Delande, bonjour.
Bonjour Florence.
Qu'elle a été dure cette grippe dans l'hémisphère sud.
Alors il faut regarder les choses avec beaucoup de prudence. Quand on essaie de jouer aux devinettes avec les virus respiratoires, on se plante à chaque fois, m'expliquait ce matin une virologue spécialiste de la grippe. Quelques éléments concrets tout de même. Les vaccins chez nous sont mis au point chaque année, notamment selon les souches virales qui ont circulé le plus activement dans l'hémisphère sud. Et ce qu'on a vu notamment pendant l'hiver en Australie de juin à août dernier, c'est une épidémie plutôt longue dans la durée, avec notamment les souches H1N1 et H3N2 qui ont majoritairement circulé. Ça tombe plutôt bien, ces souches de la grippe ont été ciblées dans les vaccins qu'on a dans l'hémisphère nord. L'efficacité vaccinale devrait donc être au rendez-vous, peut-être davantage que l'année dernière. Reste ensuite à voir si les Français vont se faire largement vacciner. On reste sur des moyennes très faibles ces dernières années. Un Français sur deux, comme considéré à risque, se fait vacciner contre la grippe. Aussi parce que ce virus a été fortement banalisé. C'est en tout cas l'une des explications avancées par les spécialistes de ce virus.
Victor Delande, je vous remercie. Combien pour un sac Gucci ou une robe Chloé, article de luxe dont les marques sont punies aujourd'hui par l'Union européenne? 157 millions d'euros d'amende pour infraction aux règles de la concurrence, plus précisément pour avoir limité la capacité des magasins indépendants à fixer librement les prix de leurs produits. produit. Si les Bleus ont déçu hier soir avec leur match nul face à l'Islande et une qualification qui attendra, il est un pays qui a célébré toute la nuit, c'est le Cap-Vert. Billet en poche pour la Coupe du Monde de foot 2026, c'est une première pour l'archipel de l'Atlantique au large du Sénégal, qualifié après avoir battu l'Eswatini, c'est le nouveau nom du Swaziland, 3-0 hier soir à domicile. Les Requins Bleus terminent premier de leur poule, devant le Cameroun et Massa Angol et les Cap-Verdiens ont fait la fête toute la nuit.
Que ce soit devant la télévision ou au stade de Praia, c'est tout l'archipel qui exulte au coup de sifflet final. Pas un seul des 525 000 Cap-Verdiens n'a manqué les 90 minutes de cette rencontre historique, les autorités ayant décrété une demi-journée de congé avant le match à 18h. Sur la pelouse, les joueurs en larmes se serrent dans les bras, une bombe de peinture dans chaque main. L'un d'eux teint les cheveux de ses coéquipiers en bleu et rouge. Les couleurs du drapeau du Cap-Vert brandies aux fenêtres de chaque voiture qui klaxonne dans les rues de Praia. Les feux d'artifice, les airs de Funana, la musique traditionnelle, résonnent toute la nuit. Le Cap-Vert, qui fête cette année les 50 ans de son indépendance, devient le plus petit pays en superficie et le deuxième pays le moins peuplé après l'Islande à rejoindre les plus grands pour une Coupe du Monde.
Voilà, et pour un mondial à 48 équipes, deux autres nations participeront pour la première fois, la Jordanie et l'Ouzbékistan, en attendant les prochaines surprises des qualifications. Voilà pour l'actualité de cette mi-journée, vous savez tout, et c'est à vous, Jérôme Val, sur un parking près de Laval, c'est la France du discount. Et Jérôme Cadet, pourquoi Jérôme Val, c'est la France du discount et du déstockage.
Oui, on ira à l'Assemblée un peu plus tard pour avoir le verdict de la journée,
c'est
Florence.
Ça, je suis obsédée par l'Assemblée.
On va rester sur cette problématique pouvoir d'achat central pour beaucoup de Français et ce développement du discount et des enseignes de déstockage dans notre pays. On en parle ensemble jusqu'à 14h. À tout de suite à Laval.
France Inter présente.
Il y a 44 ans, Robert Badinter a changé l'histoire de notre pays. Et cette année, il rentre au Panthéon.
L'or grand Besançon.
Autrefois en France, on notait encore la vie au nom de la justice. Mais un homme s'est battu pour faire taire la guillotine. En 1981, la loi qui abolit la peine de mort est promulguée. Ce grand combat de Robert Badinter, essentiel et vital, il me tarde tant de te le raconter.
Les Odyssées de France Inter.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Avec France Inter, un podcast par jour, des acquis pour toujours.
Sa vie a basculé, comme ça. Lucie ne marchera plus jamais. Et moi, je peux rien y faire. Si. J'ai trouvé le moyen de l'aider en désignant APF France Handicap comme bénéficiaire de mon assurance vie. Cette association accompagne et défend les personnes en situation de handicap depuis 90 ans. Pour Lucie et tant d'autres, il est essentiel de se battre pour leur faire une vraie place dans la société.
Demandez la brochure Legs Assurance Vie sur legs.apf-francehandicap.org ou appelez le 01 40 78 69 18.
Mercedes-Benz.
J'adore le mois d'octobre.
Oh, tu plaisantes? L'été est terminé, les jours raccourcissent.
Ah ouais, mais c'est aussi le retour des Star Days chez Mercedes-Benz.
Ah, les beaux jours reviennent alors.
Du 1er au 31 octobre, prenez l'avis côté Star Days et profitez d'offres sur de nombreux modèles, comme le GLC, le GLA ou encore la classe A Star Edition suréquipée. Des 389€ par mois sans apport. Location longue durée 37 mois 45 000 km si acceptation par Mercedes-Benz Financement. Détails sur mercedes-benz.fr. Star Days, journée étoilée. Au quotidien, prenez les transports en commun.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Une journée calme, souvent ensoleillée.
Oui, sur les régions du nord jusqu'au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, avantage pour le soleil. Alors, il y a des grisailles, hein, mais elles se morcellent. Ça va rester gris tout de même du nord Auvergne vers la Bresse et le Val-de-Saône. Des nuages nombreux aussi des côtes normandes vers la frontière belge, qui ont tendance à glisser vers le nord de la région parisienne dans l'après-midi. Plus au sud du soleil, mais un ciel quand même bien encombré sur l'ouest du Languedoc-Roussillon et sur la Corse, avec des averses parfois musclées et orageuses sur le relief et l'est de la Corse. Les températures sont plutôt douces, sauf sous les grisailles tenaces. 15 degrés à Mulhouse, 16 à Lille et Lyon, 17 à Paris, 19 à Saint-Berthevin, à Tours également, 23 degrés à Limoges, 24 à Bordeaux, Toulouse, Marseille, jusqu'à 26 à Ajaccio. Et puis demain, du soleil après les grisailles du matin, mais des nuages de la Manche au Nord-Alsace et encore un risque d'averse orageuse sur la Corse.
Et le soleil qui sort à l'instant ici à Laval. Merci pour cette météo complète. Élodie Calac, Météo France.
France Inter. Le 13-14,
Jérôme Cadet.
Un 13-14 sur le terrain aujourd'hui, comme nous le faisons très régulièrement. C'est l'ADN, vous le savez, de cette émission. Venir à votre rencontre aujourd'hui, nous sommes donc installés à Saint-Berthevin, près de Laval, en Mayenne, berceau du groupe NOS, leader européen du déstockage, mais qui n'est pas tout seul sur ce créneau des prix cassés, puisque ces dernières années, on le voit autour de nous dans cette zone commerciale, les magasins de discount et de déstockage se sont multipliés, comme partout en France d'ailleurs. On va tenter de comprendre pourquoi, vous expliquer comment fonctionnent ces enseignes. Quelles sont aussi les limites de ce modèle qui concerne aujourd'hui alors tous les produits, vêtements, alimentation, loisirs et j'en passe, tout cela avec nos invités et nos reportages. Je salue à nouveau Jean-Philippe Labado, le patron de ce magasin de Saint-Berthevin, le premier à avoir vu le jour pour cette enseigne. Ici, c'était à la fin des années 70. Le maire de Saint-Berthevin, maire Horizon, Yannick Borde, nous rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. M'avait dit, mais techniquement, on est à Laval ici en fait.
Alors, on est juste derrière la limite communale, effectivement.
Mais la zone commerciale est à cheval.
La zone commerciale est à cheval, elle est dominante sur Saint-Berthevin.
Sur les deux communes, et vous l'avez précisé avec nous également, Guillaume Bateau, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, vous êtes le directeur de Laval Économie. C'est l'agence de développement économique de l'agglomération, c'est ça ?
Oui, c'est bien ça.
Quel est votre travail, Guillaume Bateau ? C'est attirer, faire venir des enseignes ici ?
Il est vaste, hein. Il ne concerne pas que le commerce, il concerne toutes les activités économiques, en effet... C'est installer les nouveaux acteurs, c'est accompagner ceux qui sont présents à se développer et répondre à toutes leurs problématiques, qu'elles soient foncières, immobilières, enjeux RH et maintenant aussi les sujets de transition écologique.
On va en parler puisque la dimension écologique et décarbonation est une des questions qui est posée par ce modèle. Je voudrais donner la parole à l'une des consommatrices qui est venue aujourd'hui dans ce magasin et qui le connaît bien, c'est Eliane Plancheneau. Bonjour Eliane.
Bonjour.
Merci d'être là, merci d'avoir fait attention à mes feuilles qui étaient en train de s'envoler aussi. Vous êtes un ange gardien pour moi, Eliane. Vous venez souvent dans ce magasin ?
Oh oui, je suis addict à Nose, j'ose le dire. Je viens 3 fois par semaine minimum.
Ouais. Qu'est-ce que vous achetez ? Qu'est-ce que vous trouvez ici ?
Eh bien, c'est toujours la surprise. Et c'est ce qui m'intéresse. C'est en épicerie, c'est en bijouterie. D'ailleurs, regardez mon beau bracelet.
Voilà, moins de 5 euros, 4,99 euros. Voilà.
Donc, on se fait plaisir à pas cher.
Est-ce que vous...
Des choses importantes.
Est-ce que vous avez changé vos habitudes de consommation ? Vous me dites, je viens là 3 fois par semaine. Est-ce que c'était autant il y a quelques années ?
Oui, c'était autant. Avant, j'habitais Saint-Berthevin, donc je passais, je voyais Nose, je m'arrêtais. Maintenant, j'habite Laval, ça m'oblige à faire un détour puisque la circulation a été changée, mais je le fais quand même.
Est-ce que vous vous dites, au fond, est-ce que j'ai besoin de tout ça ?
Non, bien sûr. Bien sûr. Je me laisse tenter, je dirais. C'est vrai que je me fais plaisir.
Donc c'est de l'achat...
Compulsif.
Voilà, compulsif.
Exactement.
Complètement et assumé, vous le savez en fait.
J'assume. J'assume tout à fait. Il faut savoir se faire plaisir dans la vie. Il n'y a pas que le rationnel. Il faut des fois aussi un peu déborder et se faire plaisir.
Quand vous voyez qu'une marque est en difficulté, on a parlé de Casa, on a parlé de Jennifer, Camailleux et autres dans l'actualité, est-ce que vous dites, tiens, peut-être que bientôt je vais trouver ça chez Nose ?
Mais j'essaierai bien trouver ça chez Nose, absolument.
Donc c'est ça qui vous amène aussi ici ?
Tout à fait. Là, il y a eu des choses magnifiques de chez Casa, entre autres. C'est la décoration à pas cher est vraiment extraordinaire.
Même si cette enseigne a dû fermer.
Hélas.
Merci Eliane de vous être arrêtée en sortie de ce magasin. Il faut à ce stade qu'on précise, Jean-Philippe Labado, vous qui êtes le directeur de ce magasin, la différence entre discount et déstockage. Parce qu'on fait souvent l'amalgame entre ces enseignes et en fait c'est pas tout à fait la même chose.
Non, exactement. Le déstockeur, comme Nose, rachète des lots, des fins de série, des changements de packaging, des fins de collection, alors que des discounters font fabriquer des produits ou rachètent des produits finis. Nous, contrairement à eux, c'est vraiment c'est achat d'opportunités. On offre une deuxième vie à des produits qui des fois auraient pu partir à la destruction, donc on valorise aussi, on a un côté un peu écologique aussi, il faut le dire, chez Nose, et donc du coup c'est vraiment deux thèmes totalement différents.
Deux modèles différents, ouais. Même si ce sont des concurrents, pour vous êtes sur le même créneau du prix bas.
Ouais, le même créneau du prix bas, mais je pense qu'on est plus complémentaires que concurrents en fait. Voilà, donc je pense que les gens qui viennent chez nous vont aussi chez voir un petit peu chez les autres, même si c'est plus cher chez les autres que chez nous. Forcément, on est le moins cher.
Oui, vous ne me direz pas le contraire, évidemment, bien sûr, mais c'est marqué sur tous les magasins.
On est moins cher qu'en face.
J'ai fait le tour de la zone, il n'y a pas un magasin où c'est affiché dessus, je suis plus cher que le voisin.
Je sais.
Rassurez-vous. Après, chacun peut se faire son opinion.
Exactement.
Guillaume Bateau, vous qui avez une vue globale, j'allais dire, sur l'évolution du commerce ici autour de Laval, comment est-ce que vous êtes le boom de ces enseignes qu'on voit fleurir depuis quelques années?
Alors, je pense qu'en effet, comme vous l'avez dit, il n'est pas propre à Laval, c'est des évolutions de tendance de consommation. On voit en effet que le pouvoir d'achat, il est aussi beaucoup plus contraint par les dépenses énergétiques, le logement. Et aujourd'hui, en effet, on a constaté à Laval, mais c'est vrai sur tous les autres territoires, une mutation d'un certain nombre d'enseignes et donc une appétence au développement de tous ces concepts de discounters qui se sont développés en France.
C'est quoi les mutations dont vous parlez, Guillaume Bateau?
Je pense qu'en effet, on a un pouvoir d'achat qui s'est contraint aujourd'hui.
Première préoccupation des Français dans la dernière enquête IFOP, loin devant.
Forcément, on a vu tout un certain nombre de concepts qui n'existaient pas, qui n'étaient pas que français. Donc c'est vrai qu'on est fiers d'avoir Nos, qui est un produit qui a son siège à Laval et qui est un acteur de l'économie circulaire d'une certaine manière. Mais en effet, il y a des enseignes venues du nord de l'Europe et qui ont des stratégies de déploiement national et qui viennent occuper des locaux qui étaient vacants. Et pour certains locaux où, en effet, ils ont des autorisations à demander aux collectivités pour venir s'implanter.
Oui, on va parler notamment des CDAC, ces commissions départementales d'aménagement commercial dans un instant. Yannick Borde, vous qui êtes le maire de Saint-Berthevin, est-ce que vous dites au fond, ces enseignes, c'est aussi un visage de la crise économique qu'ont vécu les Français, c'est aussi un symptôme de
vraisemblablement que la question du pouvoir d'achat aujourd'hui, elle est au cœur des préoccupations. Après, la notion d'enseigne, même si ces derniers temps de nouveaux acteurs semblent rentrer encore plus sur le marché, ce qui est le cas sur la zone des Loges, sur Saint-Berthevin, elle n'est pas nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a des enseignes très anciennes, ou en tout cas qui ont plusieurs décennies, qui sont déjà positionnées sur ce secteur-là, qui ont fait aussi évoluer leur gamme. Je ne vais pas citer d'autres marques, mais on a vu des acteurs qui étaient très discount il y a 20 ans, qui sont un petit peu moins aujourd'hui. Voilà, et donc il y a cet ajustement. Je crois qu'il faut, quand on est commerçant, quelle que soit sa taille aujourd'hui, il faut s'adapter au marché. Ça fait partie des adaptations de marché. Alors vraisemblablement que la période actuelle, ou depuis 3-4 ans, avec le retour d'une inflation un petit peu plus forte, fait que les questions de pouvoir d'achat sont peut-être remontées un peu dans la pile des préoccupations. Aujourd'hui, on sait que c'est la premier souci. Ouais. Bon, voilà, c'est certainement un sujet. Mais aussi, faire remarquer que l'ensemble de ces enseignes-là ont évolué aussi en qualité, en tout cas en image, parce que elles étaient sans doute sur les mêmes types de produits il y a quelques années, mais leur image aussi s'est un petit peu améliorée. Donc, vraisemblablement que ça a amené une clientèle à la fréquenter de façon moins hésitante, en tout cas plus visible.
Alors, nous avons choisi de venir ici en Mayenne, car c'est effectivement, je l'ai dit, le berceau de ce groupe Noz, créé en 1976 par Rémi Aldrion, fils d'ouvrier qui a fait fortune en fondant ses enseignes. 340 magasins aujourd'hui dans le pays, et tout près d'ici, à Saint-Berthevin. Donc, un campus, 10 000 mètres carrés, avec un hôtel, avec une crèche, mais surtout avec 550 salariés, dont 100 acheteurs, 200 marketeurs, chargés de définir les prix d'achat pour mieux comprendre le modèle. Je vous propose d'aller sur place.
Myriam Le Guen, en charge de la communication chez Noz.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer où l'on se trouve?
Alors ici, c'est l'atrium de Noz. C'est un peu le cœur de cette entreprise. Au rez-de-chaussée figurent les achats et au premier étage, le marketing.
C'est-à-dire que les gens qu'on voit là sur les bureaux, ils sont en train d'acheter. C'est notre grand open space.
Absolument.
Là. Ce sont des acheteurs. Ils sont en train d'acheter en France, partout dans le monde.
Alors, ils sont en train d'acheter en France, un petit peu en Europe. Et où globalement, nous avons 800 acheteurs partout dans le monde. L'objectif, c'est que vraiment les acheteurs avec les marketeurs un peu plus haut connectent ensemble et travaillent ensemble puisqu'ils constituent un binôme.
Alors, on va quitter le centre de cet atrium et on va se rapprocher de l'espace des acheteurs. Il y a plein de gens qui font la queue pour boire un café, tous très jeunes, d'ailleurs moyenne d'âge assez jeune. On va retrouver Manuela Cornu. Bonjour.
Bonjour, enchantée.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ici chez Noz?
Alors, donc je suis acheteuse compte-clé sur la librairie. Et donc, je gère en fait un portefeuille d'environ 90 fournisseurs. Je travaille avec les plus gros éditeurs sur le marché français. Donc le segment principal, ça va être la jeunesse. Presque la moitié de nos ventes sont concentrées sur la jeunesse. Après, on va retrouver de la littérature, en effet, du tourisme, voilà. Vraiment tout type de déstockage.
Comment est-ce que vous calculez votre prix, l'offre que vous faites ?
Alors, donc,
n'importe quoi, le livre est vendu 15 euros, vous allez proposer combien ?
Alors, sur la jeunesse, on va être environ entre moins 50, moins 60% par rapport au prix de vente public. Et sur le pratique, on va aller jusqu'à moins 80, moins 90%. Donc moi, je vais plus être sur la partie commerciale, la détection de l'eau, le montage de dossiers. Et le marketing va plus être sur l'étude de marché. Donc c'est eux qui vont définir le prix de vente. Il faut savoir que nos clients sont là pour faire des bonnes affaires dans nos magasins. Et ensuite, on va en déterminer un prix d'achat.
Ça se passe en combien de temps ? C'est-à-dire que vous repérez l'eau, vous dites ça peut nous intéresser, j'ai envie de faire une proposition, vous demandez un prix à l'étage au-dessus, ça revient en combien de temps à peu près ?
Alors sur la librairie, en 2-3 jours, je suis capable de faire une offre à l'éditeur.
Comment est-ce que vous repérez ces lots ? C'est toujours l'éditeur qui vient vous solliciter ou pas ? Comment ça se passe ?
Alors donc en fait, on relance régulièrement nos fournisseurs, on les voit également en rendez-vous ou lors de salons. Et donc ils savent à peu près, et donc sur la librairie, on a deux temps forts où ils vont avoir du déstockage. Donc ça va vraiment être sur mars, avril et en fin d'année où ils ont besoin de place dans leur entrepôt.
Est-ce qu'il y a aussi une partie de votre activité qui est liée à des entreprises qui s'arrêtent, qui font faillite ou qui sont liquidées ? Donc là, il y a des stocks ?
Tout à fait. Alors donc on va plus avoir un service spécialisé dans tout ce qui va être liquidation. Mais en amont, moi je peux déjà détecter des lots où des fournisseurs vont me dire dans quelques mois ou dans quelques années, je vais fermer un entrepôt.
Ce service-là dont vous parlez, c'est un service qui regarde un peu l'actualité juridique, peut-être ?
Exactement. Sur la librairie, l'avantage, c'est que ce qu'ils recherchent, c'est vraiment l'écoulement rapide de la marchandise, les ventes en 4 semaines, et vraiment la discrétion du réseau, le fait qu'on ne fasse pas de publicité. Donc c'est vraiment notre force.
Ils n'ont pas envie de se retrouver avec un 4x3, regarder les
Éditions
machin,
ouais, ouais.
C'est vendu chez Noz.
C'est notre force. Et le fait qu'on puisse absorber des gros volumes, puisqu'aujourd'hui on a 346 magasins, et on n'a pas de déstockeurs aujourd'hui qui sont capables d'absorber 10 camions par exemple de livres. Quoi. S'ils nous disent la marchandise doit être écoulée, enfin doit partir dans un mois, il faut qu'on anticipe tout ça.
Et ça, cette enseigne Noz est capable de le faire. Et ensuite, ces camions, ils arrivent ici, à Saint-Berthevin, devant votre magasin Jean-Philippe Labadeau. Il y en a un qui est passé derrière nous il y a quelques minutes. On parlait livres. Il y a des Picsous dans à l'intérieur du magasin. J'ai vu La Vie devant soi, de Romain Gary aussi, de présenter. C'est vrai, pas de publicité ou en tout cas, pas de publicité traditionnelle. Ça, c'est une particularité.
Exactement, oui. Après, comme vous l'a dit la personne juste avant, on a des clauses de confidentialité par rapport à des achats de marques ou de d'éditeurs. Voilà, donc ça, c'est clair.
Avec des renouvellements assez rapides, combien de temps est-ce que vous gardez un produit ici ? Mois, 2 mois ?
Le maximum, c'est 8 semaines.
Deux mois.
Ça va de 4 semaines à 8 semaines selon les magasins, mais c'est 2 mois maximum. Et après... ils sont vendus à prix réduit et après, à la fin de vie, ils repartent à l'entrepôt, sont retraités pour des reventes éventuelles.
Et ensuite, on passe à un nouveau produit, donc il faut
exactement,
que ça tourne.
Il y a toujours de la nouveauté. Voilà,
donc assez rapidement, ce qui pose aussi la question, Guillaume Bateau, là, ce sont des objets qui ne sont pas vendus, finalement, qui arrivent ici, de la production. Ça veut dire qu'on produit trop de choses, finalement, dans la chaîne, si on va du producteur jusqu'au consommateur. Ces enseignes, elles produisent trop.
Oui, après nous, on n'a pas d'avis à émettre sur comment les choses sont produites. Par contre, ce que je disais tout à l'heure, je pense qu'en effet, Noz est un acteur très utile sur les territoires parce que ce que ferait-on de ces productions qui sont en effet des surproductions et aujourd'hui, en effet, elles trouvent une destination et un achat final via ces réseaux de magasins, donc ce qui nous semble quand même utile par rapport à ces productions.
La question du prix, Yannick Borde, vous qui êtes le maire de Saint-Berthevin, alors évidemment, c'est le prix du marché, c'est comme ça, hein, c'est la concurrence, mais bon, moi j'ai vu des bouteilles de vin à 2 euros à l'intérieur du magasin, on se dit, mais à 2 euros, qu'est-ce qui reste au producteur quand on arrive aussi bas finalement ?
Alors je pense que ça a été un petit peu dit tout à l'heure par monsieur le directeur du magasin, c'est que il y a différentes offres quand même. Là on est sur des lots de stock qui quitteraient le marché de toute façon.
Ouais.
Donc on est sur une autre forme. Après, pour avoir d'autres enseignes qui sont plutôt des discounters sur le territoire de Saint-Berthevin pour les rencontrer. En fin de compte, eux, ils jouent sur les volumes d'achat. C'est la quantité d'achat qu'ils peuvent faire sur un même produit sur l'ensemble du territoire national qui leur permet de tirer les prix, parce que par définition, une entreprise, à la fin, la rentabilité doit être au rendez-vous. Donc il y a un modèle économique qui est peut-être pas toujours très compréhensible quand on ne le creuse pas et quand on le regarde un petit peu de l'extérieur, mais qui fonctionne, et qui fonctionne à la fois pour elles en tant qu'entreprise, pour eux en tant qu'entreprise, mais également pour les consommateurs aujourd'hui qui s'y retrouvent en matière de prix d'acquisition.
La question, c'est est-ce qu'ils financent aussi le producteur?
Oui, alors après, il y a toute la chaîne. On sait que suivant les filières, c'est plus ou moins complexe, c'est plus ou moins compliqué. On peut avoir des questionnements sur la filière textile, par exemple. Mais oui, tout à fait, il y a la chaîne à privilégier quand même.
Il y a un organisme dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est vous qui nous en avez parlé, Guillaume Bateau. C'est la CDAC, Commission Départementale d'Aménagement Commercial, qui donne son aval, dans tous les départements de France d'ailleurs, à l'installation de nouvelles enseignes. Il y a une enseigne qui va s'installer près de chez vous, Yannick Borne, vous allez nous en dire un mot dans une minute, qui s'appelle B&M, ou B&M, puisque c'est un groupe britannique qui a racheté l'enseigne Babou, je crois, il y a quelques années. C'est un discounter qui va ouvrir tout près d'ici dans quelques jours. Et j'ai rencontré devant cette enseigne qui s'apprête à ouvrir Laurence Chartier-Gasnier de l'association Force Ouvrière Consommateur de Mayenne. Elle siège dans cette fameuse CDAC.
Bonjour Laurence Chartier-Gasnier.
Bonjour.
Merci de nous retrouver ici devant ce magasin qui va ouvrir dans quelques jours, qui s'appelle B&M. C'est une enseigne de discount. C'est un groupe britannique qui est en train de s'implanter un peu partout en France. Ils en sont à 130 magasins en France. Ils s'en ouvrent très régulièrement dans nos villes. Ici, c'est à Saint-Berthevin dans quelques jours. Vous aviez participé il y a quelques années à la réunion de la commission départementale d'aménagement commercial qui a donné son avis en fait pour autoriser cette ouverture. Vous savez ce qu'il va y avoir à l'intérieur de ce magasin? Qu'est-ce qu'ils vont vendre?
Du linge de maison, de l'animalerie, de la décoration, du vêtement, de produits d'hygiène. Enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver dans un discount.
Beaucoup de choses. À bas prix, on voit, c'est marqué sur la façade, oui au pouvoir d'achat, maîtrisez votre budget. On voit le signe euro qui est affiché. Vous êtes au bon endroit pour faire des économies, nous dit-on. Vous aviez donné votre avis à l'époque en commission départementale d'aménagement commercial. Déjà, qui est autour de la table dans cette commission? Comment ça marche?
Alors, nous sommes plusieurs. Nous sommes trois associations de défense des consommateurs. Nous avons le préfet adjoint. Nous avons des personnes de la ville de Laval. Nous rencontrons le futur propriétaire qui nous expose un
petit
peu.
Il vient défendre
son projet. Et puis, il y a d'autres personnes de la ville de Laval, de la mairie de Laval, en fait.
Qu'est-ce que vous aviez dit à l'époque? Vous aviez quand même soulevé des réserves.
Mon questionnement était, oui, nous créons de l'emploi en ouvrant ce magasin B&M, mais combien de personnes nous allons licencier, puisqu'il y a quand même 6 magasins hard discount sur un rayon de 2 km.
Autour de nous, là?
Autour de nous. Vous avez la Farfouille, vous avez Stockomanie, vous avez l'Incroyable, vous avez Action, vous avez Nose, vous avez B&M qui s'implante, vous avez Leclerc qui vend aussi de la vaisselle, du linge,
qui se met au discount.
Discount aussi, vraiment à la portée de tous les Mayennais. Donc moi, mon questionnement, c'était ça. Oui, on crée de l'emploi dans le bassin de l'emploi, mais combien on va en laisser au chômage? Pourquoi ne pas implanter un magasin comme ça en centre-ville qui peut aussi pallier aussi à une population qui ne peut pas se déplacer, qui vit en centre-ville? Pourquoi les obliger à venir dans des zones industrielles alors qu'on a un centre-ville qui se meurt?
Parce que vous faites vos courses, vous allez des fois chez les discounters
Ça m'arrive,
Ça vous arrive?
Ça m'arrive, mais très peu.
Ouais.
Plus Action.
Action,
je suis très Action.
Et pourquoi vous allez chez Action? Qu'est-ce que vous y trouvez?
J'y vais plus pour tout ce qui est produit d'entretien, moi.
C'est vraiment très ciblé.
C'est ciblé, oui.
Laurence Chartier-Gasnier de l'association Force Ouvrière Consommateur qui nous parlait de ce magasin B&M. Yannick Borne, il se trouve que vous avez reçu ses propriétaires il y a quelques jours.
Alors les exploitants.
Les exploitants, pardonnez-moi.
Le couple qui va gérer le magasin qui ouvre début novembre.
Pourquoi avoir donné votre accord à cette enseigne? Il y a déjà d'autres enseignes de discount sur cette zone commerciale sur laquelle nous nous trouvons ici à Laval.
Alors d'abord, il faut se rappeler qu'avant CDAC, le A veut dire aménagement, c'était CDEC, le E voulait dire économie.
D'accord.
Et on avait un avis à émettre sur la question concurrentielle. C'est-à-dire que ça devait s'accompagner d'une étude de concurrence et on devait démontrer qu'on ne déstabilisait pas le secteur économique. Aujourd'hui, il n'y a plus ce critère-là. Donc on a un critère qui est plutôt tourné au travers de l'aménagement du territoire, etc. Et puis on est dans un pays quand même où la liberté d'entreprendre, elle demeure, même si faut faire attention de ne pas habiller d'un côté pour déshabiller de l'autre, pour fragiliser. Mais aujourd'hui, c'est un critère qu'on ne peut pas regarder. Nous, on le regarde.
Mais cette enseigne-là, elle fait du multimédia. Il se trouve qu'à 100 mètres, il y a Darty et Boulanger. Elle fait de l'animalerie. Il se trouve qu'il y a Point Dog. Elle fait de l'alimentaire. Il se trouve qu'il y a Leclerc. Elle fait de la jardinerie. Il se trouve qu'il y a Jardiland. Mais vous, ça ne peut pas être un argument. Alors, d'abord, pour dire, écoutez,
ça ne peut pas être un critère en CDAC. Très clairement, c'est pas possible.
On ne peut pas retoquer un projet pour ça.
Non, on ne peut pas le refuser pour ça. Après, quand nous, on a travaillé sur ce dossier-là, comme sur tous les dossiers, on travaille en amont avec avec d'abord le propriétaire du foncier, qu'est-ce qu'il veut en faire, avec le promoteur, qu'est-ce qu'il veut cibler. Et très sincèrement, dans la relation qu'on a tissée, Guillaume Bateau en parlait tout à l'heure, avec tous ces gens-là, aujourd'hui, ils viennent rarement nous planter une banderille, c'est-à-dire quelque chose qu'on veut vraiment pas voir venir. Alors après, il y a le marché qui commande. Aujourd'hui, on sait très bien que ceux qui sont capables d'investir dans les surfaces, le magasin fait plus de 2000 mètres carrés. Tout le monde, tous les secteurs d'activité n'ont pas besoin de ce champ-là, cette surface-là. Et puis, autre élément, c'est qu'on est sur le territoire aussi, on a un accord entre élus de se partager les informations. C'est pas la ville de Laval contre la ville de Saint-Berthevin ou une troisième ville. On essaie de faire ça un peu en bonne intelligence entre nous et surtout de
vous
faire
vous
en sorte.
Vous ne piquez pas les enseignes en quelque sorte.
On ne pique pas les enseignes. Il n'y a pas de déménagement d'enseignes de façon très exceptionnelle. Et puis surtout, ce que je voulais dire, c'est que ce qui s'implante en périphérie, parce que dans le témoignage, il y a un moment intéressant avec le centre-ville.
Oui.
C'est pas des commerces de centre-ville. On veille à ce que ici, ne viennent pas des commerces qui pourraient s'implanter dans le centre-ville, notamment des petites boutiques, et réciproquement.
On va venir au centre-ville, mais juste sur la zone commerciale, est-ce que vous êtes fixé une limite de l'agrandissement?
La limite, elle est un peu naturelle, c'est-à-dire cette zone commerciale...
Il y a des terrains, hein, il en reste.
Ouais, il en reste pas tant que ça. Vous seriez devenu, il y a 20 ans, il y en avait beaucoup. Aujourd'hui, cette zone, elle s'est reconstruite sur elle-même, un peu avec un jeu de chaises où tout le monde se déplaçait. Quand on en déplaçait un, on voulait pas que son bâtiment historique reste une friche, il fallait que quelqu'un vienne, etc. Donc on a requalifié cette zone, et puis on est sur un territoire qui est certes la préfecture de la Mayenne, mais qui est un petit territoire. Et donc on se dit, il n'y a pas deux grandes zones commerciales sur l'agglo, il n'y en a qu'une, et elle est là. Donc aujourd'hui, s'il y a des enseignes importantes qui arrivent, elles doivent d'abord regarder s'il y a de la disponibilité foncière ou bâtie sur cette zone-là.
Guillaume Bateau, vous qui êtes le directeur de Laval Économie, chargé du développement économique ici, agglomération de Laval, est-ce que vous dites, on a entendu l'argument de Laurence Chartier-Gasnier, des équilibres entre des zones commerciales et puis des centres-villes. Des gens qui vont pas aller en centre-ville, ils vont trouver tout et à bas prix dans ces enseignes.
En tout cas, c'est un travail, en effet, qui a été fait en concertation avec les élus en début de mandat. C'est-à-dire, il y a un schéma d'aménagement commercial qui a été défini, qui a défini les conditions de la périphérie, de développement de la périphérie, avec et en effet, pas d'extension de zone commerciale. C'est-à-dire que la zone commerciale se renouvelle sur elle-même et avec, en effet, des limites de plancher. Maintenant, en effet, comme l'a exprimé Monsieur Borde, on ne peut pas émettre officiellement d'avis sur les enseignes qui viennent. Donc c'est un jeu de discussion quand on voit les opérateurs arriver. Aujourd'hui, ce qui est clairement inscrit dans le schéma d'aménagement commercial, c'est pas de nouveaux petits commerces sur la périphérie. Pas de moins de 400 mètres carrés en périphérie. Donc
les petits commerces vont pas en périphérie et les gros vont pas dans le centre-ville.
Bah, en tout cas, B&M, à ma connaissance, ne développe pas de concept de centre-ville aujourd'hui.
Non. En revanche, il y a une enseigne de discount qui développe ses enseignes dans les centres-villes. C'est l'enseigne Normal qui nous vient du Danemark. Il y a 200 de ces magasins en France. Ils s'en ouvrent très régulièrement. Et effectivement, celui dont on parle est dans Laval. Bonjour Mathieu Bonnour.
Bonjour.
Vous vous y êtes rendu, c'était ce matin, je crois, et vous avez rencontré des clients à la recherche de bonnes affaires.
L'intérieur du magasin est un grand labyrinthe. Il faut serpenter dans les couloirs de produits entre les petits prix qui s'affichent partout en grand. Sur la devanture, un slogan. Pourquoi est-ce si peu cher? Demande le petit bonhomme, logo de l'entreprise. Lynn repart avec un sac rempli de cosmétiques. Cette jeune étudiante vient souvent ici.
Des produits quand même à bas prix. Ils font quand même des produits de, entre guillemets, marque. C'est sûr que niveau prix, ça concurrence quand même les autres enseignes. Alors là, j'ai pris un vernis. Je pense qu'ailleurs, j'aurais payé 7-8 euros et là, je l'ai payé 2-3 euros.
Dans les rayons, Rachel regarde par curiosité. Elle fait le plein de gel douche, 3,90 € la grande bouteille d'un litre. Et elle repart aussi avec un petit cadeau.
Des petites boucles d'oreilles fantaisie de Noël pour mes petites filles.
Mignonne, regardez. Okay. Pour mettre le jour, le soir de Noël.
On se fait des petits plaisirs hein, qu'on ne ferait pas autrement, certainement. Quoi. Comme c'est pas très cher, hein, on se fait des petits plaisirs.
Venir dans ces magasins avec des petits prix, c'est une solution pour cette retraitée, un moyen de retrouver la sensation d'avoir du pouvoir d'achat.
Des prix ont augmenté et sauf les pensions, hein, si je suis à la retraite, je fais plus attention. On regarde dans nos placards si on n'a pas ce qu'il nous faut, on ressort des choses, voilà. Et on est tenté avec ces magasins-là un petit peu plus. On a presque pouvoir un peu plus dépenser.
Rachel vient souvent inspecter les rayons pour faire des économies. Selon les arrivages des produits, elle ne sait jamais ce qu'elle va trouver à l'avance.
Guillaume Bateau, est-ce que ça, c'est l'avenir du commerce? Est-ce que le discount va se développer de plus en plus et quels que soient les produits?
En tout cas, j'ai pas de boule de cristal. Après, c'est la tendance qu'on observe aujourd'hui. En effet, y compris dans les centres-villes qui étaient très tournés, marque à forte valeur ajoutée, ouais. On voit qu'on a besoin de ces concepts pour répondre aux attentes de la population. Et en effet, après, comme vous le dites, il y a des concepts et normal, je crois qu'ils se développent sur 200, 300 mètres carrés, là, sur le centre-ville de Laval, sont également aussi dans une galerie marchande en périphérie lavalloise. Et on a des concepts qui nécessitent plus de place et qu'on a du mal à trouver dans les centres-villes.
Alors, le discount, c'est de plus en plus de l'alimentaire. On vous l'a dit, on en trouve dans toutes ces enseignes, y compris de frais. Mathieu Bonnour, avant d'aller chez Normal ce matin, vous êtes rendu chez Premium. Premium qui vend de la viande et du fromage. Notamment, qu'est-ce que c'est que Premium?
C'est une chaîne d'une vingtaine de magasins en France qui ont commencé à ouvrir il y a 3 ans, spécialisée dans l'anti-gaspi de viande. Dans le magasin où nous sommes allés à Saint-Berthevin, c'est le premier de la marque. Les frigos sont remplis, bœuf, porc, poulet. Amélie, avec son petit dans sa poussette, scrute les prix.
Je me laisse guider par les promos. Dès que je vois que c'est moins cher qu'en grande surface, j'achète. C'est depuis l'inflation, ouais. Depuis, les prix ont vachement augmenté. Depuis, le budget il est assez serré niveau course, donc on fait attention.
Cette mère de famille au chômage est à la recherche de ses bonnes affaires. Tout comme Daniel et Catherine, avec leur panier bien rempli, ils viennent 2 fois par semaine.
C'est vraiment très bien, quoi. Vous voyez, j'ai pris ça, c'est maigre.
Et je vois le paquet de 10 tranches de poitrine fumée, 1,20€. C'est 1,20€.
Ah oui, mais ça c'est magique. Et quand vous voyez le lot de saucisses, il y a combien? 5 kilos pour 30€. On est comme tout le monde, hein, on cherche le plus petit prix et puis de la bonne qualité quand même.
Catherine, aide-soignante à la retraite. Daniel, ancien de la plasturgie, achète souvent leur viande ici, quasiment exclusivement maintenant. Tous les repas sont même composés avec ce qu'ils trouvent dans les rayons. Ils anticipent avec un grand congélateur chez eux.
Je prends déjà à Noël de ce que je veux et ça va être des paupiètes de veau.
Ces clients sont de plus en plus nombreux à pousser la porte du magasin, assure Audrey Robieux, la responsable. Elle avait une boucherie classique avant de basculer pour cette nouvelle démarche.
On sortait du Covid, tous les prix ont augmenté, que ce soit le bœuf, le porc, la volaille. Et ça devenait plus possible pour nos clients. C'était logique qu'ils allaient partir sur de l'anti-gaspi, sur du pas cher. Donc c'est pour ça qu'on est parti là-dessus. C'est une fierté d'avoir ouvert ces magasins puisque ça fonctionne très bien.
Cette jeune responsable de 24 ans qui a commencé toute seule gère même désormais une équipe de 3 salariés pour répondre à une demande toujours plus forte.
Alors le discount pour la viande et le fromage, j'ai voulu savoir ce qu'un producteur, ce qu'un éleveur pouvait penser des prix dont vous venez de nous parler, Mathieu Bonnour. Je me suis donc rendu hier chez Marc Beignet. Avec 5 collègues, ils ont monté une ferme à Montflour. En 2011, ils produisent en bio des légumes, du pain, des produits laitiers, de la viande. Ils vendent en direct à des particuliers. 40 animaux au total sur la ferme. 200 paniers de légumes vendus par semaine. 200 kilos de pain. Je lui ai montré les prix de cette enseigne de discount. 26,95€ le kilo l'entrecôte, DLC demain. 20€ le kilo le faux filet, date limite de consommation aussi demain. Qu'en pense-t-il?
Eh ben, étonnamment, non. Mais en fait, nous, on vend très peu de viande au détail. On vend de la viande en colis de 10 kilos. Et donc, nous, pour 17,50€ du kilo, les gens, ils ont un colis qui représente l'ensemble de la bête. Donc, des bas morceaux, mais aussi des beaux morceaux. Et finalement, les prix sont pas si éloignés. Après, il faut voir la qualité de la viande. Si c'est déjà, est-ce que c'est de la viande française, donc qui a pas trop roulé en camion? Est-ce qu'elle a été nourrie à base d'herbe ou est-ce qu'elle a consommé des céréales qu'aurait pu être à destination des humains et finalement qu'à destination des animaux. Donc.
Alors c'est origine France. Après je peux pas vous dire, je peux pas vous en dire plus sur le mode de production, mais en tout cas oui c'est origine France pour le bœuf là qui est vendu. Ouais.
Ça me choque pas vraiment de voir ces prix là par rapport à ce que je vends moi en tout cas. Je suis surpris en fait.
Ouais, vous êtes surpris que d'être finalement compétitif?
Ben on pourrait dire ça, ouais. Sauf que quand ils viennent chez nous, ils ont pas toute la gamme et c'est pas au détail. C'est plus compliqué quand même de se fournir chez les producteurs locaux en termes d'énergie que d'aller au milieu d'une grande zone commerciale où on va pouvoir s'acheter et des vêtements, faire son plein d'essence, acheter de la nourriture.
C'est-à-dire que vous, pour 18€ du kilo, j'ai peut-être de l'entrecôte, mais peut-être autre chose.
Ouais, ça veut dire que vous allez avoir un peu de bourguignon, un peu de pot-au-feu, et puis aussi des faux filets, des entrecôtes. En gros, pour 70% de pièces à griller, 30% de pièces à bouillir. Et ça fait des prix qui sont pas très loin de ce que vous m'annoncez là.
On sait que depuis quelques années, il y a eu cette vague d'inflation qui s'est tassée, mais enfin, les prix ont beaucoup grimpé. Est-ce que vous sentez, vous, y compris dans les gens qui viennent vous voir à la ferme, le besoin d'acheter pas cher, que c'est vraiment une contrainte, et peut-être on vous fait remarquer que, ah ben, si vous étiez 2 ou 3 euros moins cher, ça serait quand même pas mal?
C'est très rare que les gens nous fassent remarquer ça. Peut-être ils osent pas. Ouais. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est qu'on a eu des listes d'attente pendant des années. On ne pouvait pas fournir tout le monde. Aujourd'hui, on n'a plus de liste d'attente, on a un peu moins de clients, et les clients qui prenaient 2 pains, un bout de fromage et un panier de légumes, ben maintenant ils prennent un panier de légumes, un fromage 1 semaine sur 2 et 1 pain au lieu de 2. Donc on a senti le gros ralentissement de notre activité. Et ça, on sait que c'est lié aux moyens des ménages, quoi.
Est-ce que vous prenez ça en compte dans l'évolution que vous voulez apporter à la ferme?
Ouais, alors pas du tout sur la réduction des prix, ce qui est pas du tout imaginable pour nous. On s'approche doucement du SMIC pour plus de 40 heures semaine, donc notre travail mérite d'être payé. Aujourd'hui, il faut qu'on se rapproche des gens, où ils sont les gens. Donc on doit aller les chercher, et donc là on a un projet de marché dans le centre-ville de Laval, dans un endroit où ça circule. Les gens viennent pas pour nous, ils passent dans le centre-ville, et là on a l'intention de leur faire coucou en tenant un beau stand et en présentant notre activité. Et il y a d'autres projets, comme un projet de restauration dans le centre-ville de Laval aussi, dans les nouvelles halles. On a monté une association qui tient un petit restaurant qui a pour ambition de mettre en avant les fermes mayonnaises en agriculture biologique à travers des repas. Donc c'est tout ce genre de stratégie pour toucher des gens qui viendraient pas vers nous spontanément. C'est à nous d'aller les chercher et de leur expliquer en quoi notre agriculture, elle est saine pour eux, mais aussi pour le futur, pour décarboner notre économie, pour dépolluer nos rivières. Il y a un vrai projet politique derrière cette agriculture.
Marc Beignet, rencontré hier soir, la ferme est à Montflour. Yannick Borde, on voit bien que c'est tout le commerce en fait qui se réorganise et qu'il y a des choses à inventer, à imaginer.
Je crois qu'il y a derrière tout ça, en fin de compte, il y a nos changements de comportement. Il y a à la fois la question de pouvoir d'achat, vous l'évoquiez dans les interventions précédentes. Il y a aussi, je pense, un peu de qualité voulue, de circuit court. On a sur le territoire, il y a cet exemple-là que vous venez d'entendre, mais on a déjà sur le territoire de l'agglomération des ventes à la ferme, des maraîchers ou des producteurs qui livrent les grandes surfaces, alors soit les grandes surfaces que tout le monde connaît, soit des structures plus spécialisées, je pense à la marque Bondissi. Donc ce sont nos comportements qui bougent et tout le monde doit s'adapter.
Avant de terminer cette émission, il nous reste quelques minutes. Vous savez qu'on fait toujours un clin d'œil à la ville qui nous accueille, et techniquement c'est donc la ville de Laval. Aujourd'hui, c'est ce que vous m'avez précisé, Yannick Borde, en débutant cette émission. Il y a cette curiosité locale flottante à Laval qui fait partie de l'histoire du patrimoine de la ville. La ville est propriétaire des 2 derniers bateaux lavoirs de France, le Saint-Julien et le Saint-Yves. Ce sont les ancêtres de nos lavelinges. Ils ont été en activité jusqu'en 1971 sur les rives de la Mayenne. C'est ce que nous dit Xavier Villebrun. C'est le directeur du patrimoine de la ville.
Les bateaux lavoirs, c'est vraiment une conscience lavalloise très profondément ancrée. Ça a été cette formule de bateau d'abord sans étage, où on venait laver comme sur un grand bac flottant. Et puis, on a raffiné le lieu avec un étage où on pouvait faire buanderie. Donc, très tôt le matin, le capitaine du bateau mettait les fours en action, puisqu'il fallait chauffer l'eau. Et ensuite, lorsque les lavandières avaient terminé leur lavage à la rivière, le linge était monté à l'étage pour ce qu'on appelle les buées. C'est-à-dire qu'il était rassemblé avec des petites marques par famille, hein, de façon à ne pas perdre son linge. Et une fois que le linge était lavé, il pouvait redescendre, être rincé directement dans la rivière. Petit à petit, avec la motorisation, on a vu apparaître une essoreuse mécanique. Il faut imaginer par exemple qu'un lycée, une caserne, employait tout un régiment de laveuses, où les bonnes familles de Laval faisaient laver leur beau linge. Ce qui fait qu'il y avait aussi une ségrégation dans l'espace. Les plus beaux bateaux lavoirs accueillaient le beau linge, et puis les bateaux les plus populaires étaient peut-être les moins bien situés. Sur les eaux les moins claires. C'était un monde quand même important. Il faut imaginer que 20 bateaux lavoirs avec 40 laveuses par bateau, ça papotait beaucoup. On les surnommait les poules d'eau.
Ces deux bateaux lavoirs, donc à Laval, classés au monument historique, le Saint-Julien sera rouvert l'été prochain, l'été 2026. Quant au Saint-Yves, il est en ce moment dans un champ et il attend d'être restauré. Merci à tous de nous avoir suivis ici aujourd'hui en direct de Laval. Merci Jean-Philippe Labadeau de nous avoir accueillis ici devant votre enseigne. Je voudrais remercier toute l'équipe de France Inter. Éric Gérard, notre chargé de production, Fabien Gosset, Olivia Branger, nos techniciens, Cécilia Arbona à la rédaction en chef, Camille Poux-Jalaguier, notre chargé de programme, les équipes d'ici Mayenne et Germain Trahi qui nous a donné un bon coup de main également pour monter cette émission. À suivre le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.